Salut! Ici Annie et Cathy de Cigogne et Baluchon.
Dans ce podcast, notre mission, c'est vraiment de t'accompagner et te soutenir à travers ta maternité pour que tu puisses enfin porter tes propres couleurs.
C'est ton moment à toi, juste pour toi. C'est parti! Salut Cathy!
Salut Annie!
Contente d'être avec toi?
Ben oui, certain. Tu vas mettre un peu de soleil dans notre journée. Parce que je sais pas, on peut-tu le dire? On est quoi?
Oui.
On est le 19 avril 2022. Ouais. Hier, il y avait beaucoup de gens en gougoune au parc. Puis aujourd'hui, c'est la tempête de neige.
La vraie tempête de neige.
Puis même Annie, elle dit « Ah, viens pas! » Elle dit « Les routes sont pas belles. » Mais là, moi, j'avais tellement besoin de mettre du positif dans ma journée. J'ai dit « Je passerai pas la journée toute seule chez moi. Je m'en viens chez Annie. »
Écoute, j'ai eu des notifications des autobus qui se rendraient pas à l'école à matin. Ouais. Fait que là, je dis « Oh là, Cathy, je suis pas sûre que tu vas être en sécurité de descendre. » Mais t'es là.
Ouais, ça n'est sauf. Puis... pour le sujet, j'avais tellement hâte de te parler de ce sujet-là.
Hey, on en parle-tu? On sait que ça touche beaucoup, beaucoup. Ben, en fait, ça touche toutes les mères du monde entier.
Ouais, hein? Tous les parents.
Les pères.
Ouais.
Le sommeil, Cathy.
Ouais, le sommeil. On en a déjà parlé dans Un Expresso, s'il vous plaît. Je pense qu'on l'avait abordé de façon différente. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant, c'est justement la question qu'on se pose, c'est à partir de quel moment dans notre société, le sommeil prend une aussi grande place, hein, que c'est devenu aussi important puis préoccupant pour nous, les parents, le sommeil de nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé?
Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. T'sais, premièrement, il y a beaucoup de surinformations par rapport au sommeil, comme si on pouvait dresser la bête, comme je pourrais dire. C'est vrai, on dirait que les parents ils ont comme mission de dresser le sommeil. Puis malheureusement, on n'a pas toujours le contrôle sur le sommeil. Est-ce qu'on peut avoir un certain contrôle jusqu'à un certain niveau, on s'entend? Mais on l'observe, Cathy, dans le groupe de Cigogne et Baluchon, il y a énormément de questionnements sur le sommeil et les régressions sur le sommeil. Fait que c'est vraiment un sujet qui touche énormément les parents. Puis tabarouette, on vous amène aujourd'hui des pistes de réflexion, mais aussi des pistes d'intervention pour vous aider un petit peu à passer au travers ces moments qui sont plus difficiles pour les parents. J'ai l'impression que c'est très difficile pour les parents maintenant de ne pas être dans l'acceptation puis de vouloir justement exercer un certain contrôle sur le sommeil.
Ben, tu sais, on se le fait beaucoup questionner aussi quand on devient parent. T'sais, c'est une des premières questions qu'on va nommer. Tu sais, comment ça va les nuits? Est-ce qu'il dort bien? Puis tu sais, c'est comme tu le dis souvent, c'est notre fabuleux bulletin de parents aussi. On a l'impression que d'avoir un bébé, un enfant qui dort bien, ben c'est parce qu'on a bien fait les choses.
Oui.
Hein?
Nécessairement, quand ton bébé dort pas, fait pas ses nuits, t'es un mauvais parent.
Oui, ben c'est ça. Je pense que ça peut.
C'est très logique.
Ça peut faire cette impression-là pour certaines personnes. Puis, d'autant plus que la fameuse pression sociale aussi, puis tu sais, on parle souvent peut-être de notre entourage, mais aussi des autres générations, pour ne pas nommer les grands-parents, qui ont vécu des choses différentes des nôtres. Hein? C'est un contexte social différent aussi.
Oui, totalement.
Puis ça, on va en tenir compte. Puis justement, ça tente que je parle un peu de statistiques?
Oh, vas-y. Bon, moi, j'aime beaucoup les statistiques. Ouais. Je base pas toutes mes interventions par rapport aux statistiques. C'est le fun d'avoir les bonnes informations, puis c'est le fun aussi de voir que c'est un peu... tu sais, c'est numérisé, là, tout ça.
Oui, mais là, aujourd'hui, c'est des statistiques faites sous la firme Normandin-Dubé, OK? Alors, on a sondé dans le groupe VIP de Cigogne et Baluchon, on a voulu sonder, en fait, les grands-mères.
Oui.
Donc, on a demandé à nos membres de demander à leur mère comment elles dormaient quand elles étaient bébés. C'était quoi leur sommeil? Est-ce que c'était est-ce qu'il y avait des défis entourant le sommeil ou pas? OK? Donc ça ne m'a pas surpris vraiment le résultat, mais je pensais pas que ça allait être quand même aussi élevé au niveau du pourcentage. Donc 87% des grands-mères ont répondu que le sommeil de leur fille n'était pas un défi, que ça allait bien, qu'elle dormait bien. 87%!
C'est presque 90%!
Eh oui, c'est énorme! Uh-huh. Okay? Donc, 13% ont répondu que le sommeil, c'était difficile, que c'était un défi pour leur enfant. comment on interprète ça, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est inversé, là. Les chiffres, là, ah oui, sont carrément inversés. Tous les enfants ou les bébés ont des problèmes de sommeil, on dirait. Ou, en fait, les parents pensent que leur bébé a un problème de sommeil. Peut-être qu'il y en a plus qu'avant, effectivement, des problèmes de sommeil, considérant la société actuelle. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard des fameux perturbateurs de sommeil, mm-hmm. qu'il n'y avait peut-être pas non plus dans le temps de nos parents à nous. Voilà. Fait 87% quand même, c'est, ça m'a quand même surpris à quel point c'était élevé. On émet des petites hypothèses. Encore là, c'est non scientifique. C'est pas scientifique, OK? On est là pour réfléchir ensemble. C'est pas scientifique. Par contre, ça fait bien du bon sens, hein?
Ah ouais.
Bon, première des choses, Annie.
Ben, la mémoire est une faculté qui oublie.
Est-ce que nos grands-mères, ben nos mères, en fait, auraient oublié à quel point ça pouvait, c'était difficile, finalement?
Ouais, ben, pis tu sais, tu vois, là, je prends une petite minute pour raconter un peu une situation que j'ai vécue la semaine passée. J'ai été faire des interventions dans une famille qui a 3 enfants très, 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 très rapprochés, la même situation que moi, OK? Puis là, je voyais la famille, puis j'étais là, puis je prenais là conscience à quel point que, oui, tu sais, la maman, elle est dans un tourbillon, ça va vite, ça brasse, tout ça, puis je me dis, tabarouette, moi, je suis donc bien à des années-lumière de ça, puis pourtant, j'ai 4 enfants, j'en avais un de plus, puis il y avait la même âge. On oublie, Cathy, puis ça fait pas si longtemps que ça, parce que mon bébé, mon dernier, il a 3 ans, il va avoir 4 ans, puis tu vois, là, j'étais dans la même situation que cette maman-là, exactement le pareil. Mais mon cerveau a oublié à quel point c'était submergent à ce moment-là. Puis on n'est pas loin, là.
Non.
Mon bébé a 3 ans.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que oui, la mémoire est une faculté qui oublie. Puis je pense qu'on oublie pas mal plus vite que qu'est-ce qu'on le pense.
Oui, je pense que oui. Je pense que oui, clairement, parce que dans quelques années, là, dans 2-3 ans d'ici, je suis certaine que... Ben justement, premièrement, on fait d'autres bébés, ça veut dire que ça veut dire que oui, on oublie vite. Parce que si ça se pourrait qu'on finalement qu'on remette le projet à plus tard ou tout ça, mais finalement, on refait des bébés. Fait que clairement, il s'est passé quelque chose. Puis moi, ben personnellement, je m'en souviens très bien. Ben en fait, tu sais, des fois, j'ai ces réflexions-là, puis je me dis, crème, il me semble que moi, ça n'a pas été...
Si pire,
si intense, tu sais, je l'ai eu quand même facile, je pense. Puis après ça, ben, tu sais, je vais rendre visite à des familles en postpartum. Mm. Je les vois aller, puis après ça, des fois, je m'en retourne chez moi, puis je suis comme... Là, j'ai des flashbacks de moments où ce que j'éteins mon bébé, que je pleurais, puis je trouvais ça difficile, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même spécial. Fait, donc oui, la mémoire, c'est une faculté qui oublie ça, c'est clair. L'autre point aussi qu'on a relevé, c'est est-ce que Annie, on est plus anxieux comme parents que nos parents l'ont été?
Écoute, avec tout l'accès à l'information, là, puis avec tous les réseaux sociaux, puis avec toute la facilité à poser une question, hein, puis de recevoir immédiatement une réponse, hein, parce que là, des fois, il y a des mamans qui vont poser hey, « Est-ce que, par exemple, une régression du sommeil vers l'âge de 7 mois, pac, 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 là, t'as plein de mamans là, qui t'écrivent, là, one shot deal, hey oui, une régression, hey non, puis là, hey, peut-être que c'est d'autres choses, là. Fait que là, on se ramasse avec un ramassis de conseils, un ramassis de solutions aussi, que là, et là, ça monte à l'intérieur de nous, puis en même temps, ben, il y a beaucoup d'anxiété de performance, hein, tu sais, tu le disais tantôt, notre bulletin de parents de faire dormir les bébés, ben là, à partir du moment où est-ce que ça devient une problématique en soi, tu sais, pour nous, puis que là, tu poses des questions, puis que finalement, t'as pas totalement les réponses, bien, clairement qu'il y a de l'anxiété, là. Ton cerveau, il fait « wow, là, patine la grande, là, parce qu'il y a clairement une problématique. » Fait que, oui, l'anxiété, toute l'accès à l'information, c'est sûr que ça vient créer de l'anxiété, là, chez nos parents, là.
Mm-hmm. Ouais, puis donc, on transmet, en fait, aussi cette anxiété-là chez notre bébé, chez notre enfant. Donc, mais c'est sûr que c'est ça, ça peut jouer au niveau de son sommeil.
Parce que quand vient le moment du dodo, puis ça, on va en reparler un petit peu plus tard, quand vient le moment du dodo et qu'on appréhende, ce moment-là, puis que là, on est stressé de se dire, hey, là, je vais-tu pouvoir prendre mon bain tranquille à soir? Je vais-tu pouvoir le coucher avant 8 heures pour pouvoir écouter mon district que j'ai enregistré? Là, c'est sûr là, qu'il y a comme une genre d'anxiété, là, puis que là, ça va. Tu sais, on appréhende beaucoup, puis malheureusement, bébé le ressent. Fait que des fois, il faut un petit peu lâcher prise, ce qui n'est pas évident à faire, mais faut lâcher prise.
Oui. L'autre chose aussi que j'aimerais parler, puis que je suis certaine que ça influence le sommeil de notre bébé, c'est qu'en fait, notre génération, ouais, à moi, à Annie, à nos auditeurs, on dormait sur le ventre.
Ouais. Hein?
Les recommandations, c'était dodo sur le ventre.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça peut influencer parce qu'un bébé qui dort sur le ventre va dormir plus profondément. Puis c'est d'ailleurs pourquoi les recommandations ont changé justement pour le dodo sur le dos. Mais bref, dormir sur le ventre, ce que ça va faire en réalité aussi, c'est que ça va atténuer le fameux réflexe de Moreau. Donc, quand l'enfant dort puis qu'il fait le saut, qu'il sursaute, c'est tout à fait normal là, pour un nouveau-né. Ben, de dormir sur le ventre, ça va absorber cette espèce de choc-là. Oui. Donc, l'enfant risque de moins se réveiller. Puis, le sommeil va être plus profond, comme je l'ai dit tantôt. C'est sûr que les recommandations aujourd'hui de dormir sur le dos, ça a lieu d'être, dans le sens que ça l'a quand même réduit de beaucoup les morts subites du nourrisson. Donc, si vous voulez une vraie statistique, celle-là, elle est vraie. Je suis allée la chercher là, sur, je me souviens plus sur quel site là, de Santé Canada ou tout ça. Mais en fait, dans le début des années 90, il y avait 400 décès par année de morts subites du nourrisson. Puis maintenant, on est à environ 105, un peu moins de 150 décès par année pour la mort subite du nourrisson. Donc, je ne sais pas si c'est au Québec, là. Je pense que c'est au Québec, ouais. Alors, ce chiffre-là, ça doit être au Québec.
Ouais.
Donc, quand même, c'est considérable. Donc, oui, les recommandations d'aujourd'hui, c'est dodo sur le dos. Par contre, nous, on a dormi, pour la plupart d'entre nous, sur le côté ou sur le ventre.
Oui, effectivement.
Donc, ça peut grandement influencer le fait qu'aujourd'hui, nos bébés se réveillent plus, finalement.
Mm-hmm.
Oui.
Sinon, avant, hein, dans le temps de nos parents, on était une génération où est-ce que il y avait du conditionnement au boire pour les heures fixes. Hein? Fait que, tu sais, bébé boit aux 3 heures.
Ouais.
Hein? C'était ça un peu la notion, hein? Bébé boit aux 3 heures. Fait que c'est pour ça qu'il y a des questionnements au niveau de l'allaitement. Aujourd'hui, ça fait juste 1 heure qu'il a bu. Ouais, mais il a soif, mon bébé. Ah non, tu sais, nous autres, il buvait aux 3 heures.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement au sommeil par rapport à ça. Puis on laissait aussi beaucoup les bébés pleurer. On n'était pas nécessairement aux besoins de l'enfant. Plus on va en discuter plus tard, hein? Cathy, c'est quoi un besoin versus un désir? Là, on a un bel épisode qui s'en vient pour ça. Mais, puis on était un petit peu moins à l'affût avant, tu sais, quand on laissait beaucoup pleurer les bébés, on n'était pas nécessairement conscient du besoin de proximité de l'enfant. Fait que comme ça, c'était un peu la normalité de laisser pleurer les bébés, puis de se dire, écoute, il peut pas avoir soif, parce que de toute façon, tu sais, il faut qu'ils boivent juste aux 3 heures. C'était un peu les recommandations aussi en médecine.
Ouais. Les besoins de base, tu sais. Oui. La couche est changée, il a bu, il a mangé, tu sais. Je sais pas quoi faire d'autre, donc on va attendre, on va laisser pleurer aujourd'hui. On le sait que, comme tu disais, besoin de proximité, le besoin affectif, tu sais, que aussi l'allaitement, c'est pas juste nourricier. Hein?
Non, c'est
affectif, tout ça. Fait que ça, c'est sûr qu'on a vu beaucoup ça. Puis ça, sais-tu d'où ça vient, tu sais, l'espèce de règlement que c'est aux 3 heures, finalement. Ça vient vraiment de la culture des orphelinats.
Ouais.
Je pense que c'est dans le début des années 1900. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés dans les orphelinats. Et c'est sûr qu'on ne pouvait pas donner du lait à la demande. Hein? Donc, ça a été réglé aux 3 heures. Donc, on commençait le biberon de l'autre bébé. On les donnait à tour de rôle. Et après ça, qu'est-ce qu'on faisait? On repartait nourrir le premier qui avait été nourri et on nourrissait comme ça. Et ça, malheureusement, c'est resté chez nos mères, chez nos grands-mères. Puis c'est ça, la fameuse croyance, justement, du fameux 3-4 heures là, entre les boires. Fait que c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient, finalement.
C'est intéressant, mais c'est épouvantable.
Ouais. tu sais, ça l'évolue. Regarde aujourd'hui où ce qu'on est. Mais c'est sûr que ça vient avec des clashs au niveau des... de nos histoires, de nos croyances, oui, de tout ça, ça nous suit pour longtemps,
ouais.
Ce que les anciennes générations ont fait. Fait que là, on est comme un peu en train de se défaire de ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ça nous amène à penser qu'est-ce que nos propres enfants vont nous reprocher qu'on a fait.
Ah ouais, totalement.
Moi, je me questionne souvent.
Ben, c'est sûr là-dessus, que ça évolue constamment, là, de toute façon. Puis, tu sais, avec les recherches maintenant, quand on fait des IRM aux enfants pour voir c'est quoi leur... Tu sais, au niveau affectif, qu'est-ce que ça leur apporte d'être en proximité avec le parent... Et là, 60 ans, 75 ans, on n'avait pas cette technologie-là pour voir, tu sais, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau. Fait que c'est sûr qu'il y a des avancées. En même temps, tu sais, je pense qu'il faut y aller un petit peu par parcimonie puis se laisser un peu la chance, hein. Les gens, dans le temps, faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient.
Ouais.
Puis ça, je le nomme à tous mes clients, ben, t'as fait ce que t'as pu avec ce que t'avais.
Exact.
Tu sais, tu l'avais pas l'information. Fait que là, hein, on break
ouais.
un peu, là.
Ouais, on est pas déculpabilisé. Puis on n'était pas tout le temps rendu là au niveau des avancées scientifiques et des recherches. Donc, on peut pas en vouloir.
On peut juste
peut-être justement informer ces gens-là des nouvelles avancées et tout, là,
mais
en matière de développement.
Modifier un peu les comportements, tu sais, en fait. Quand on se rend compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas adéquates ou qui n'étaient pas super géniales, ben qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir un peu le travailler? C'est ça, dans le fond, qu'il faut voir. C'est pas de dénigrer ce qui était fait avant ou de dénigrer ce que nous, on était comme parents avant d'avoir l'information X sur X sujet. C'est vraiment de se dire, OK, à partir de maintenant que je connais cette information-là, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire avec ça? Est-ce que j'ai envie d'apporter des modifications, d'améliorer la situation? Puis là, ben let's go, tu sais, on part ou bien on en reste au même point, là. Ça dépend de qu'est-ce qui convient, finalement, là.
Tout à fait.
Mais, dis-moi.
Oui?
Vas-y.
Ben en fait, on voulait vous donner aussi des trucs et des astuces concrètes. Fait que là, on a fini notre chiolage. Puis là, on veut vous donner vraiment des petites pistes, en fait, à explorer. Puis à réfléchir aussi. Donc, on va parler, en fait, des perturbateurs de sommeil. Oui. Qu'est-ce qui peut, justement, influencer le sommeil de votre enfant? Puis qu'est-ce qui peut, justement, le perturber dans nos actions quotidiennes qu'on a, finalement? Fait que la première des choses, c'est l'environnement. Hein? Oui. C'est des perturbateurs environnementaux. Tout ce qui est, en fait... La Moses de technologie,
ouais.
La lumière bleue, la télé, le cellulaire. Combien de fois que je vois des mamans allaiter avec leur cellulaire entre les mains avant le dodo.
Mm-hmm.
Hein? Donc, il faut savoir que ben on libère de la mélatonine hein, en vue d'embarquer dans le sommeil, finalement. Et tous ces gadgets-là sont des inhibiteurs de mélatonine.
Ouais.
Et la même que la mère qui allaite... va transmettre sa mélatonine par le lait maternel à son bébé. Donc, si la mère elle-même est en manque de mélatonine parce que ben, elle est sur son téléphone, etc., ben, elle va transmettre moins de mélatonine à son bébé. Okay? Donc, il faudrait peut-être, justement, si pour vous c'est un défi au niveau du sommeil, de votre sommeil à vous, de votre propre endormissement également, ben, peut-être réduire l'utilisation des appareils dans votre quotidien, mais surtout avant l'endormissement du soir, si c'est là votre problème, finalement.
Ouais, et puis là, tu sais, ça veut pas dire non plus là, qu'à partir de maintenant, ça devient dangereux. Tu sais, c'est pas ça là, notre message qu'on veut envoyer. Le message, c'est de simplement prendre conscience que s'il y a des problématiques au niveau du sommeil, que si vous trouvez pas votre endormissement non plus, ben ça se pourrait... Tu sais, qu'est-ce qui se passe alentour de nous? Est-ce que j'utilise beaucoup d'écran? Est-ce que, justement, parce que je vais donner un exemple que je vois souvent en consultation, j'ai des parents qui s'assoient avec leur enfant pour les bercer, puis qu'ils regardent des comptines, mettons, sur YouTube, etc. Puis après ça, ben l'enfant a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à accéder à son sommeil profond. Fait que ça, c'est des choses qu'on travaille ensemble. Tu sais, la comptine, est-ce que c'est possible de revirer le téléphone de bord puis de juste écouter au son plutôt que... de l'avoir en plein visage. Fait que, tu sais, ça, c'est des petits changements que vous pouvez faire qui sont quand même assez simples, mais, tu sais, on s'entend, on a toujours nos téléphones dans les mains, on a tout le temps la télé d'allumer. Fait que, tu sais, c'est juste de diminuer puis voir à quel point ça peut avoir un impact positif sur le sommeil de votre enfant ou de votre propre sommeil, finalement.
Ouais. Ben oui, puis, tu sais, moi, ça me fait penser combien de fois dans la nuit que je reçois des messages de maman là, sur Cigogne et Baluchon, des messages d'information, des courriels, tu sais. Fait que les mères, la nuit, sont sur le téléphone. Je ben, peux vous le garantir.
Quand tu te lèves pour aller changer une couche ou d'allaiter, ben qu'est-ce que tu fais en premier lieu? T'es réveillée, fait que tu prends ton téléphone, tu regardes tes notifications.
Ouais.
En même temps, ça vient vraiment bloquer le fait de, tu sais, tes cycles de sommeil, ça vient comme les couper, les entrecouper. Fait que c'est sûr que là, après ça, c'est difficile. Puis là, ben clairement que les mamans sont fatiguées, clairement que les bébés sont plus fatigués. Fait que là, ça bouscule un petit peu. Là,
puis tu sais, ça va être un ensemble aussi de choses à mettre en place. Tu sais, comme quand je parle là, de la préparation à l'accouchement, c'est pas juste parce que tu fais un de mes petits trucs, ça alisse, que ça va comme tout changer ton accouchement. Faut en faire comme plusieurs, mettre en place plusieurs choses, plusieurs points qui vont être gagnants pour peut-être justement avoir une belle amélioration finalement au niveau du sommeil. Oui. La surstimulation, Annie?
Oui, et là, ouais.
Ouais.
Ça paraît pas, là, mais un enfant, par exemple, qui est à la garderie, hein, là, on parle des enfants qui ont débuté beaucoup la garderie, etc., mais aussi pour les bébés que les fameux... Tu sais, là, c'était Pâques en fin de semaine, hein? Là, on s'en va rencontrer eux. On part d'un environnement qui est passablement calme. Tu sais, je vais penser à ma belle-sœur là, qui a un bébé de 5 mois. Là, finalement, ils sont pas venus parce qu'ils ont la COVID, mais bref. Mettons qu'elle serait venue, là. Mais là, probablement qu'elle se serait posé beaucoup de questions le soir. Pourquoi bébé dort pas? Pourquoi il est plus agité? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais Colin, ton bébé, là, il est débarqué dans ma famille avec 4 enfants. Où est-ce qu'il y a du bruit? Le chien qui jappe. Tu sais, il y a eu
les odeurs.
Ouais. Papy l'a pris. Mamie l'a pris. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions sociales. Puis c'est beaucoup de... C'est beaucoup de tu sais, olfactif, tu sais.
Tous les sens sont là, là.
Oui, puis juste le bruit, hein, de changer d'environnement, etc., bien, c'est sûr que ça apporte de la surstimulation à l'enfant. Et ça, on n'est pas toujours conscient à quel point ça peut venir un petit peu perturber, hein, le soir venu, parce que l'enfant a été très, 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 très surstimulé. Puis là, bien, le soir, il y a de la difficulté à se déposer, à gérer tout ça, parce que ça cause du stress.
Mm-hmm.
Bon stress, mauvais stress. Ça cause du stress. Fait que là, le soir, ben, il y a des fois des parents qui vont dire « Eh là là, tu sais, ça s'est pas bien passé finalement. Il a été un ange, hein, toute la soirée. Puis finalement, ben le soir, ben ça s'est pas passé comme on voulait. C'est sûr parce que votre enfant, il est en train de contenir un peu son stress. Rendu à la maison, où est-ce qu'il était bien dans un environnement, où est-ce qu'il se sent adéquatement en sécurité, ben pouf, il explose. C'est la même affaire quand les enfants à la garderie, ils font jamais rien qu'ils font à la maison.
Mm-hmm. Ouais.
Les enfants à la garderie, ils maintiennent leur stress, puis un coup qu'ils sont rendus à la maison, s'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimulation, ben on se laisse aller à la maison. Puis ça, on va en parler aussi éventuellement. Il y a tellement de sujets qu'on va parler.
La fameuse éponge émotionnelle.
Ah, certainement! Fait que tu sais, au niveau de la surstimulation, c'est sûr que ça peut générer des problématiques au niveau du sommeil.
Ouais. Puis tu sais, aujourd'hui, les fameux jouets, là, les sons, les lumières, écoute, c'est intense, là. Moi, dans c'est mon temps, c'était... Intense. Puis je me souviens qu'on en avait beaucoup moins de jouets que les enfants ont aujourd'hui.
Ça nous irrite, Cathy, comme parents. Ouais. Les maudits jouets, là, pour pas dire les Christophe de jouets, là, ils nous gossent tout le temps. Fait qu'imagine un enfant toute la journée, là, qui est avec des bébelles, là, qui font du son, du bruit, puis que là, tu sais, c'est super en plus au niveau de la vision, là, c'est attrayant pour l'œil.
Ouais.
Fait que, oh là là!
Ouais. Mais ouais, beaucoup de jouets, beaucoup de stimulation avec ces jouets-là. Puis à l'inverse aussi, hein, la sous-stimulation.
Oui.
Donc,
oui.
Peut-être des fois des bébés ou des enfants qui vont pas assez à l'extérieur ou qui n'ont pas assez d'interaction avec des adultes ou d'autres bébés, d'autres enfants, pourraient rechercher les stimulations la nuit. Hein?
Oh, oui.
Et ça, tu sais, le fameux réservoir d'affection, tout ça, c'est pour ça que c'est important, des fois, au retour de la garderie, au retour de l'école, de leur donner de l'attention parce que les enfants qui en ont peut-être pas assez durant le jour vont vraiment chercher à en obtenir la nuit et là, les éveils peuvent être plus fréquents aussi.
Oui. Ah oui, effectivement, parce que l'affection, ça amène la sécurité, puis la sécurité, ça amène l'apaisement. Fait que s'il n'y a pas tout ça ensemble, ben malheureusement, c'est vrai que ça peut créer éventuellement là, des réveils un petit peu plus précoces ou des crises un peu pendant la nuit. Fait que ça, c'est quand même... Puis là, on vous dit tout ça, là, pour de l'information, mm-hmm. là, hein? Ça veut pas dire que demain matin, si vous mettez pas tout ça en place, wow, hein? Laissez-vous ouais. une chance, là, non, hein? C'est ça, là, c'est vous venez trucs. D'avoir accès à cette information-là, prenez une parcelle là-dedans, puis mettez-la en place ou non.
Exactement, le but, c'est pas de culpabiliser personne, encore une fois. Non, mais je pense ça. Que ça va faire plaisir à plusieurs parents d'avoir peut-être cette information-là qu'ils ne savaient pas. Tu sais, des fois, avant de prendre un atelier sur le sommeil, avant de prendre une consultation avec une consultante en sommeil, avant de vouloir tout changer vos routines de bord, ben des fois, juste de savoir cette information-là, tu sais, qu'on peut mettre facilement en place, là, c'est pas rien qui sort de l'ordinaire. Puis d'ailleurs, parlant de ça, des routines, Annie, l'importance des routines. Hey, moi, j'ai découvert ça quand même, l'importance des routines. Mes enfants, il y avait peut-être 2-3 ans là, que je me suis rendu compte à quel point ça l'influençait tout le reste, finalement.
Ben oui, puis tu vois, là, Cathy, ce qu'il faut savoir, là, tu sais, il y a souvent des questionnements dans le groupe, hein, là, est-ce qu'il y a une régression? Mon bébé, là, il y a 7 mois, est-ce qu'il y a une régression? Mon bébé a 3 mois, est-ce qu'il y a une régression? Mon bébé a 18 mois, est-ce qu'il y a une régression? Il y a tout le temps...
Il y a tout le temps des régressions en passant!
Il y a tout le temps des régressions, mais... Puis tu sais, ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand il y a un changement dans la routine, hein, que ce soit... à la garderie, il y a une nouvelle éducatrice ou il y a une éducatrice qui est partie, il y a le début de l'alimentation, qu'il y a des nouveaux acquis au niveau du développement, etc. Bien ça, c'est sûr que ça peut venir interférer au niveau du sommeil parce que c'est un dérangement dans la routine. Fait que c'est sûr et certain. Tu sais, prenons-nous, là, les parents, là, vous changez d'emploi, vous avez un nouveau patron, etc. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à dormir le soir.
Ouais.
Pour le stress, etc. Fait que c'est la même chose avec nos tout-petits, avec nos bébés.
Quand on dit que le sommeil, là, c'est en fluctuation, là, beaucoup, beaucoup, au moins pendant la première année de vie, sinon plus, hein, parce qu'il arrive bien d'autres choses après un an. Mais c'est sûr que tout ça, ça peut influencer. Les fameuses poussées de développement aussi chez nos bébés. Donc, à chaque fois que votre enfant va faire un acquis quelconque, que ça soit agripper un objet, hein, premièrement, tu sais, comme un fameux hochet, là, le prendre, l'arriver à le prendre dans ses mains, juste ça, c'est un acquis. Se tourner, hein, se tourner du ventre au dos, du dos au ventre, apprendre à s'asseoir, commencer l'alimentation, tout ça, c'est des nouveaux acquis chez les enfants. Et quand il y a un nouvel acquis, ben ça vient avec la fameuse régression qui va venir avec, juste à temps que l'enfant ait acquis cet apprentissage-là, qu'il puisse l'expérimenter par lui-même, finalement, après que son parent l'ait aidé, finalement, à acquérir cet acquis-là. Donc, c'est sûr que les fameuses poussées de développement, là, celles que tout le monde appelle les poussées de croissance, là, dans ma formation, justement, sur le quatrième trimestre, j'en parle, j'ai un petit segment là-dessus, là, parce que c'est super important de comprendre à quel point ça va influencer les comportements, finalement, de notre bébé ou de notre enfant. Hein? Est-ce que ça vous parle?
Il y a aussi un petit point, Cathy, que je voulais apporter, parce que je veux que les parents fassent la paix avec le sommeil, tu sais, dans le sens que on n'a pas beaucoup de contrôle, nous, les parents. Oui, on a le contrôle sur l'environnement. Oui, on peut mettre en place des choses. C'est important de mettre en place des routines. Tu sais, par exemple, moi, je suis beaucoup plus spécialisée à partir de 12 mois là, et plus, là, tu le sais. Fait que les routines sont un petit peu plus importantes, les rituels, etc. Mais notre attitude de parent, hein, quand on appréhende le sommeil, quand on vit du stress, puis que là, on se dit « Oh là là, tu sais, ça, ce soir, ça va être une soirée d'enfer, je le sens, ça va être de la merde. » Puis que là, ben on vit ce stress-là en même temps qu'on essaie de consoler bébé puis de l'endormir, clairement que ça fait un petit mélange explosif puis que c'est pas ça qu'on veut apporter. Fait que, tu sais, de faire un peu la paix avec ça puis de se dire, mais il est où, moi, mon contrôle? Il est où, moi, mon contrôle sur le sommeil? Fait qu'à partir du moment où est-ce que vous mettez en place des bonnes stratégies d'intervention puis que le sommeil est encore difficile, bien, câline, essayez un peu de dire, OK, là, je vais essayer de lâcher prise, ça se passera comme ça se passera, puis éventuellement, bien, si vous vous en sortez pas, bien, pourquoi pas prendre une consultation avec des spécialistes. Chez Cigogne et Bolchon, on a Isabelle Veilleux qui donne des super de belles formations au niveau du 0-12 mois, puis après ça, bien, si vous avez besoin encore plus, bien, moi, de mon côté, je vous accompagne à partir du 12 mois et plus. Fait que ça, c'est des bons outils, hein, que vous pouvez utiliser. Puis en même temps, ben vous pouvez aussi impliquer papa. C'est super important de se dire, ben moi, je veux pas être toute seule là-dedans à gérer le sommeil, parce que souvent, ben quand on allait être bébé ou des choses comme ça, on prend un peu la responsabilité de ce sommeil-là. En même temps, papa, qui est peut-être un petit peu plus, des fois, détaché de la situation, puis moins impliqué émotionnellement parce que il a pas le devoir d'allaiter bébé s'il pleure, etc., ben ça peut être des fois un petit peu plus facile. Puis même en consultation, il y a bien des mamans qui disent « Mais avec papa, ça se passe super bien. »
Ah ben oui, sous le temps.
Oui, mais là, on parle d'un lien d'attachement, etc. Puis ouais. Ça, un autre sujet, Cathy, qu'on ouais. va pouvoir explorer ensemble. Mais essayez un peu de... Essayez pas. Portez juste la réflexion, dans le fond, tu sais, de se dire « Ok, mais sur quoi, moi, j'ai le contrôle dans cette situation-là pour le sommeil, en sachant que, bon, hein, il y a des facteurs environnementaux, il y a des perturbateurs, etc. » Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à venir nous en parler. N'hésitez pas à prendre une consultation avec Isabelle Veilleux ou avec moi, ou peu importe, pour avoir de l'accompagnement ou pour avoir peut-être plus un portrait global de votre situation. Des fois, ça nous aide beaucoup là, à avancer.
Ouais. En attendant, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui, je pense, oui. qui fait du sens, là, qui va pouvoir aider. Oui, exactement.
Fait que, sujet, le sujet
est clos. Le sujet est clos juste à temps qu'il nous repogne une autre bulle.
On en reparlera éventuellement de ce fameux sommeil. Et merci, Cathy.
Hey, merci.
Bye.
Bye.
J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu t'es sentie un peu plus accompagnée dans ton quotidien. C'était Annie Normandin, intervenante familiale, et Cathy Dubé, éducatrice périnatale et accompagnante à la naissance. Si tu as envie de rejoindre notre belle communauté Cigogne et Balchon, rejoins-nous dans notre groupe Facebook VIP Cigogne et Balchon. Les détails sont dans la description du podcast. À la prochaine!